10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Mickaël Darmon.
Et bienvenue dans ce premier grand rendez-vous de la rentrée. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Damien Fleurot de CNews et Nicolas Barré des Échos. Dans l'acte 2 du quinquennat, le personnage principal, c'est le temps. Plus question de se presser pour faire le bonheur des Français malgré eux. Voici venu le temps du temps long, concerter, écouter, ralentir. C'est le nouveau vocabulaire du gouvernement et du président. Vous nous direz comment justement continuer à transformer le pays plus lentement alors que les courses contre la montre sont multiples, menace d'une récession mondiale, rupture et révolution technologique de tous ordres. Agenda mondial, agenda national sont liés. Vous nous direz comment éviter une nouvelle flambée jaune dans le pays. La France assume également son statut de puissance médiatrice, mais est-elle pour autant actrice? Vous nous le direz. Comment maîtriser à nouveau le temps donc, de l'horloge politique alors que le quinquennat, lui, avance de plus en plus vite? Tout ça, on va le voir avec vous, Bruno Le Maire, personnage un peu en trompe-l'œil. Vous êtes techno, écrivain, look sérieux mais moins raisonnable qu'il n'y paraît. Vous venez de la droite, mais vous avez noué aussi des relations avec le pôle gauche de la Macronie, notamment au moment de la taxe sur les GAFA. Alors votre conversion est-elle sincère? Avant de vous entendre sur tous ces sujets, écoutez cette annonce du président de la République. Elle a lancé la rentrée.
Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge.
Damien Fleurot.
Bruno Le Maire, on vient d'entendre le président de la République, c'était sur France 2 lundi dernier. Il parlait de cette réforme des retraites, le dossier brûlant, le dossier social brûlant de l'exécutif. Pourquoi cette clarification du président de la République, une clarification qui a surpris tout le monde, même à Matignon?
C'est pas une clarification, c'est une indication.
Il y a
une indication,
le rapport
de possibilité.
Le rapport de Levoix n'était pas suffisamment clair.
Le rapport de Levoix envisage aussi de prendre en compte la durée de cotisation, lise-le attentivement. Il parle de l'âge pivot, il parle aussi de la durée de cotisation.
Oui. Mais là, qu'est-ce le président de la République donne sa préférence.
Donne sa préférence, mais laissons aussi le temps au débat. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de cette réforme, on a un système de retraite qui soit plus juste, plus simple et à l'équilibre. Plus juste parce qu'aujourd'hui, si vous faites des carrières hachées, si vous êtes une femme, vous allez avoir un taux de remplacement de votre salaire qui sera moins élevé.
On va y venir,
plus simple parce que vous avez 42 régimes et que vous avez des régimes des régimes spéciaux qui ne correspondent plus aujourd'hui à ce qu'est la réalité du travail des uns et des autres. Et un régime qui soit à l'équilibre parce qu'aujourd'hui il ne l'est pas et qu'il faut qu'on démarre sur des bases
solides. Alors justement Nicolas Barré.
Concrètement, est-ce qu'il faut comprendre qu'il va falloir tout simplement cotiser plus longtemps? Parce que vous le savez, la réforme Touraine prévoit que la durée de cotisation augmentera d'un mois chaque année entre 2020 et 2035, et là, on a le sentiment qu'en fait, il va falloir accélérer le tempo. C'est ça qu'il faut comprendre?
Je pense, Nicolas Barré, que si on veut réussir cette réforme, il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs. Et qu'ensuite, pour atteindre ces objectifs, on regarde quels sont les différents moyens pour y parvenir. Je redonne les objectifs. La simplicité. On ne peut pas garder 42 régimes différents. La justice, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes s'en sortent beaucoup plus mal que d'autres, parce qu'elles n'ont pas de régime spéciaux, parce qu'elles ont eu des carrières hachées, parce que ce sont des femmes et qu'elles ont eu, pour des interruptions, pour élever leurs enfants, des carrières qui sont moins linéaires que les hommes. Un système qui soit juste, un système qui soit simple, c'est-à-dire qu'on puisse se dire, à n'importe quel âge de sa vie professionnelle, j'ai 35, j'ai 40 ans, si je pars à la retraite d'ici quelques années, ouais, combien est-ce que je vais toucher? Quel va être mon taux de remplacement? Ce taux de remplacement est très important. Ouais. C'est ce qui vous permet de savoir quel va être votre écart entre votre pension et le salaire que vous touchez. Et à l'équilibre. J'insiste là-dessus,
donc, ouais,
à l'équilibre, c'est-à-dire qu'en 2025, on doit démarrer avec un système qui soit équilibré. On ne va pas démarrer avec 5, 10
donc,
ou 15 milliards d'euros
des
de
mesures
déficit.
Pour l'équilibre.
Ce serait irresponsable. Bien sûr qu'il faudra des mesures pour l'équilibre.
Donc, est-ce qu'il faudra cotiser
bien sûr
plus longtemps?
L'objectif 2025, on démarre la réforme à l'équilibre. Ouais. Donc il faudra qu'on s'interroge sur les mesures qui doivent être prises. Le Premier ministre voit les partenaires sociaux jeudi et vendredi prochain. Responsables syndicaux, responsables patronaux. Laissons-les discuter. Moi, je ne suis pas là pour trancher à la place des autres. Je fixe simplement
mais
ce qui pourrait
fait
être l'objectif. Mais il est président de la République.
Bon, moi, donc, je vous dis laissons-les discuter, mais le président
donc,
a déjà
je dis simplement
donné
que le ministre des Finances est soucieux, bien entendu, pour la pérennité de notre régime par répartition, que nous démarrions la réforme avec un système qui soit à l'équilibre. Mais il faudra des mesures, lesquelles que les partenaires sociaux discutent avec le Premier ministre et avec la ministre en charge des retraites.
Bruno Le Maire, on voudrait aussi comprendre, parce que dans ce revirement, annoncé par Emmanuel Macron, là, on l'a entendu, ça a surpris. C'est aussi le changement de méthode qui s'incarne. Plus question maintenant de se mettre les Français à dos. On réembarque la CFDT avec laquelle on n'avait pratiquement aucune relation. Ça aussi, ça veut dire cela ?
Le temps 2 du quinquennat, c'est autant d'énergie et plus d'écoute. Je pense qu'on peut parfaitement conjuguer la même énergie qui est celle sur laquelle a été élu le président de la République, celle qui nous anime tous. On voit bien qu'il faut transformer le pays en profondeur, transformer notre modèle économique, transformer notre modèle social et le système des retraites pour qu'il soit pérenne. Mais écoutez davantage.
Mais la formule est belle, autant d'énergie plus d'écoute, ça veut dire en fait qu'il faut ralentir.
C'est pas simplement une formule, c'est une réalité. Regardez ce que nous avons fait par exemple sur les niches fiscales. On va faire des économies sur les niches fiscales,
on va les faire
progressivement, en écoutant davantage, en prenant le temps de la concertation.
Il n'y a pas le temps, c'est au pas de charge, sabre clair.
Mais le pas de charge, c'est très bien pour donner une impulsion au quinquennat. Ensuite, il faut être capable d'entendre ce que vous disent les Français. Les Français nous ont dit à un moment donné, attendez, là on ne comprend pas, là ça va trop vite, là vous êtes trop brutal, là on ne va pas arriver à le supporter. Je reviens à l'exemple du GNR, quand les professionnels du bâtiment, des travaux routier, publics, me disent, ou lorsque je me déplace, lorsqu'un jeune entrepreneur me dit « Attendez, moi j'ai un chantier,
on y reviendra.
Là, l'équilibre de mon chantier ne tient plus à cause de votre formule. » Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre le temps de l'écoute et être certain d'arriver à bon port ? Moi, je souhaite que toutes nos transformations en profondeur arrivent à bon port. Pour cela, prenons le temps
de
l'écoute.
Parfait. Théorie, travaux pratiques. Les urgences deviennent un conflit explosif. Comment mettre donc cette méthode maintenant en application pour essayer de régler ce problème et ce conflit qui s'étend de jour en jour ?
Toujours la même méthode, savoir d'abord où on veut aller et quelle est la réalité du problème. Sur les retraites, je le dis, simplicité, justice,
on parle des urgences.
Équilibre. Sur les urgences, meilleure articulation entre les services hospitaliers et la médecine de ville. C'est ça le problème de fond. C'est pas la peine de traiter les problèmes à la surface. Nous avons été élus avec le président de la République pour traiter en profondeur des problèmes qui n'ont pas été traités depuis des décennies. Le problème des urgences, c'est d'abord et principalement une mauvaise articulation entre la médecine de ville et les urgences, qui font que comme vous n'avez pas de médecin de ville, vous avez un enfant et Dieu sait que nous connaissons tous ces situations, tout d'un coup il a un violent mal de tête, vous avez le sentiment qu'il ne va pas bien, vous n'avez pas de médecin de ville, il n'est pas disponible, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez aux urgences alors qu'il n'y a pas forcément urgence. C'est ce problème de fond que Agnès Buzyn s'est engagée à traiter. Elle a ensuite apporté des réponses financières. Elle a aussi apporté des réponses budgétaires qui, aujourd'hui, permettent de résoudre les problèmes immédiats. Mais le problème de fond, c'est celui qu'Agnès Buzyn a posé. Comment est-ce qu'on développe l'offre de médecine de ville pour qu'on ne soit pas contraint, quand on a un enfant malade, quand on a une personne âgée qui ne se sent pas bien, de se précipiter aux urgences au risque de les engorger ?
Alors, vous avez évoqué le problème, effectivement, des urgences avec les difficultés d'Agnès Buzyn. Le président de la République nous l'avait dit il y a quelques jours. Si des ministres n'y arrivent pas, ça sa formule, il y aura des réaménagements. Est-ce que cela veut dire, si je reviens quelques secondes sur les retraites, que Jean-Paul Delevoye doit rentrer au gouvernement pour également apporter sa contribution et aider la ministre sur ce sujet ?
C'est normal que les ministres soient jugés. Nous sommes là pour faire du travail et de préférence du bon travail pour les Français. Et si le président de la République ou le Premier ministre estime que nous ne faisons pas du bon travail, eh bien, il nous remplace. Ça fait partie de la règle du jeu et je l'accepte totalement. Ensuite, c'est le président de la République et le Premier ministre qui font les nominations gouvernementales. Une fois encore, ça n'est pas le ministre de l'Économie et des Finances.
Bruno Le Maire, les racines de la crise des Gilets jaunes sont sans doute encore là, dans le sens où la crainte du déclassement est toujours présente, on a toujours des inégalités territoriales qui se manifestent, on a la hausse structurelle des coûts de l'énergie. Est-ce que vous craignez un nouvel accès de fièvre en cette rentrée ?
Je suis élu d'un département depuis plusieurs années, qui est le département de l'Eure, où il y a eu beaucoup de Gilets jaunes et beaucoup de mes compatriotes que je rencontre, avec lesquels je discute, qui ont tout simplement le sentiment d'être prisonniers, de ne pas pouvoir se déplacer librement, de ne pas pouvoir partir en vacances.
Prisonniers,
de pas pouvoir...
c'est fort.
Oui, prisonniers. Prisonniers d'une vie qui n'est pas exactement celle qu'ils auraient souhaitée et qui voient qu'on leur propose des voyages, des déplacements, des loisirs, des vacances, des restaurants, des cinémas, des théâtres et qui n'y ont pas accès. Tout l'objectif de la politique que nous menons avec le président de la République, c'est permettre à toutes ces personnes qui travaillent de vivre mieux leur travail. Que les Gilets jaunes aient lancé un message d'alerte sur la rémunération du travail, sur la dignité et la liberté que donne le travail.
Pardon, je crois que c'est un message... C'est un peu plus qu'une alerte, Bruno Le Maire. C'est une profonde crise de la petite classe moyenne qui s'est soulevée contre le gouvernement.
Ce n'est pas une alerte. Je dis simplement que le diagnostic que je fais, peut être contesté, il peut être débattu. C'est que derrière la crise des Gilets jaunes, il y a une crise du travail, de la dignité que donne le travail, de la liberté que donne le travail. Et toutes les réponses que nous avons voulu apporter depuis, elles permettent de répondre à ce défi-là. En augmentant les rémunérations, en allégeant les impôts, en supprimant un certain nombre de cotisations. Laisser
un
le
sondage,
temps, là
c'est le sondage du JDD ce matin de l'IFOP qui dit 66% des Français disent qu'ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron, à l'exécutif, notamment pour mener cette réforme des retraites que vous voulez plus juste.
À nous de faire nos preuves. La réforme des retraites n'a pas encore démarré. Donc pour l'instant, ne jugeons pas sur une réforme qui n'est même pas encore sur la table, qui n'est même pas encore passée en Conseil des ministres. Sur la rémunération du travail, en revanche, qu'est-ce que je constate ? C'est que la consommation augmente. C'est que la rémunération nette de beaucoup de Français a augmenté parce que nous avons supprimé les cotisations, parce que nous allons faire les heures supplémentaires défiscalisées, parce que nous allons mettre en place un dispositif auquel je crois profondément, que nous avons porté avec le président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée, Roland Lescure, qui est présent dans cette salle, l'intéressement pour tous. Moi, je souhaite que tous les salariés aient accès à un accord d'intéressement qui leur permette d'avoir un salaire plus élevé quand l'entreprise fonctionne bien. Nous allons baisser l'impôt sur les revenus à partir du 1er janvier de l'année prochaine de 5 milliards d'euros, avec 350 euros en moyenne pour la première tranche d'impôt en moins. Tout cela avec un seul objectif. Le travail doit payer. Et une personne qui a un emploi, une personne qui a une rémunération doit se dire « Je suis libre de mener la vie que je souhaite parce que je travaille. » Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est notre ambition.
Voilà. Et pourtant, effectivement, c'est très important d'écouter ce que vous développez, Bruno Le Maire, ce matin. Mais pourtant, on a le sentiment que les Français qui travaillaient et qui étaient sur les ronds-points considéraient que le travail ne payait pas assez. Est-ce que vous diriez qu'il existe du ressentiment à l'intérieur aujourd'hui de la société française ?
Oui, il y a une part de ressentiment, bien sûr. Mais cette part de ressentiment, nous sommes là pour l'entendre. Il ne s'agit pas de s'y opposer frontalement en disant que ce ressentiment n'est pas acceptable. Il faut le comprendre, en comprendre les racines et traiter le problème à la racine. Une société dans laquelle il y aurait toujours plus d'inégalités entre ceux qui gagnent très bien leur vie, qui profitent de la mondialisation et ceux qui ne s'en sortent pas est une société vouée à l'échec et à la violence. Une société dans laquelle une personne qui travaille, quel que soit son travail, quel que soit son niveau de qualification, cette personne ne s'en sort pas, ne peut pas élever dignement ses enfants, ne peut pas prendre des loisirs, est une société vouée à l'échec et à la violence. Je le dis bien, à la violence. Donc notre responsabilité, elle est considérable. C'est de bâtir un modèle économique qui soit plus généreux, plus respectueux de la dignité des uns et des autres et qui permette de valoriser le travail. C'est tout le sens des réformes que nous avons engagées.
On continue à en parler donc après la pause.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
On se retrouve donc au grand rendez-vous avec vous, Bruno Le Maire. Eh bien, comment réussir et comment transformer et comment aller vite tout en prenant le temps d'écouter. On va continuer à en parler. Nicolas Barré.
Oui, un des dossiers qui vous préoccupe en ce moment à Bercy, c'est évidemment la préparation de la privatisation de la Française des Jeux. Alors, on va être très concret. Est-ce que vous pouvez nous préciser d'abord le calendrier et puis, est-ce qu'il y aura des mesures pour inciter les particuliers à acheter des actions de la Française des Jeux pour pas que ce soit uniquement une opération destinée aux grands fonds de pension internationaux ?
C'est pas notre objectif, concret. Nicolas Barré, je vous le confirme. Notre objectif, c'est que la Française des Jeux puisse être privatisée d'ici la fin de l'année. Et sans doute d'ici la fin du mois de novembre, sauf évidemment s'il devait y avoir un écroulement du marché, ce qui nous amènerait à reconsidérer notre position. Mais sinon, le calendrier, c'est fin de l'année 2019, dans le courant du mois de novembre.
Je voudrais préciser, la vente des actions. Fin novembre, les particuliers pourront acheter des actions.
Fin novembre, peut-être même début novembre, les particuliers pourront acheter
Le calendrier, là,
des titres.
D'accord.
Il n'y a pas de raison de traîner sur la privatisation de la Française des Jeux du moment qu'un certain nombre de conditions sont réunies. La première condition, c'est que nous mettions en place une autorité de régulation des jeux. Parce que le seul sujet qui me préoccupe, c'est qu'on lutte contre l'addiction aux jeux, et en particulier l'addiction des plus jeunes aux jeux. Et là où je veux bien rappeler que ces privatisations s'entourent d'un renforcement des garanties pour les citoyens français, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité indépendante des régulations des jeux. Demain, la privatisation va s'accompagner d'une autorité de régulation des jeux dont nous nommerons le président dans les prochaines semaines et qui aura vocation à lutter avec efficacité contre l'addiction aux jeux, notamment des plus jeunes. L'État gardera une participation. L'État gardera 20% de la Française des Jeux. des anciens combattants. Vous savez que ça a été créé en 1933, la loterie nationale, que ça a été fait notamment pour accompagner les anciens combattants. Ils resteront membres du conseil d'administration. Et les salariés, comme les Français, pourront participer à cette privatisation. Les salariés avec des conditions peut-être plus avantageuses, c'est normal, parce que c'est eux qui ont contribué au succès de la Française des Jeux, par exemple avec une possibilité de décote sur le prix de l'action. Et les Français pourront aussi participer à cette privatisation. Je souhaite qu'ils y participent le plus largement possible, avec un certain nombre d'avantages, comme par exemple des actions gratuites en fonction de la durée de détention du titre. Voilà, pour être très précis.
Il y aura une part réservée au grand public ?
Il y aura une part réservée au grand public. Je ne peux pas vous donner l'ordre de grandeur, mais il y aura une part réservée au grand public avec une possibilité d'action gratuite pour tous les actionnaires qui accepteraient de détenir plus longtemps leurs actions et leurs titres de la Française des Jeux. Tout ça est en cours de définition, je pense être déjà très précis. Vous voyez bien que
l'objectif, ça montre aussi un peu peut-être la difficulté à rendre populaire cette privatisation et le fait que les Français se mettent à aimer et à acheter cette société.
Je vais vous poser une question très simple. Le rôle de l'État, c'est quoi ? C'est de nous protéger, de nous défendre, d'éduquer ? C'est de préparer l'avenir en innovant dans la recherche ? Est-ce que c'est de s'occuper de la loterie nationale et des jeux de tirage et de grattage ?
Donc il y aura
La question que je pose, j'y apporte une réponse claire, c'est non. Le rôle de l'État, c'est de vous protéger, c'est d'avoir des policiers, des gendarmes, des douaniers. Le rôle de l'État, c'est d'avoir une armée qui soit puissante.
Donc on peut s'attendre à d'autres
Le rôle de l'État, c'est d'innover, d'investir dans l'avenir, parce que la souveraineté de la France se joue dans sa capacité à rester leader dans les hautes technologies. Mais le rôle de l'État, ça n'est pas de s'occuper des jeux de hasard, de tirage ou de grattage. Nous allons garder exactement les mêmes recettes fiscales.
Pourquoi l'État reste à l'intérieur de la Française des Jeux ?
Il ne restera plus à l'intérieur de la Française des Jeux, sauf à hauteur de 20% pour s'assurer du contrôle sur l'addiction en complément de cette autorité de régulation. Parce qu'en revanche, l'État doit protéger. C'est le rôle fondamental de l'État. Et en matière de jeu, la protection que nous devons garantir à tous nos compatriotes, en particulier les plus jeunes, c'est qu'il n'y ait pas un développement de l'addiction, du surendettement qui va avec et des problèmes de société que cela peut poser. Privatisation, maintien du même nombre de recettes fiscales pour l'État, plus de 3 milliards d'euros, c'est les recettes fiscales qui sont liées au jeu. Nous garderons évidemment les mêmes recettes fiscales et une protection garantie par cette autorité de régulation.
Alors apparemment, votre analyse justement sur la réorganisation de la présence de l'État dans certains secteurs, notamment concernant l'aéroport de Paris, n'est pas partagée par tout le monde, puisqu'il y a eu un processus donc de référendum pour donc contrer et annuler cette privatisation annoncée. Comment vous qualifiez à l'heure actuelle la mobilisation des opposants qui tentent d'organiser un référendum ?
Je ne veux pas la qualifier, moi je respecte...
Vous la suivez, vous la voyez
je
bien,
la suis,
vous êtes attentif.
Je la suis, bien entendu, mais je ne suis pas là pour la qualifier. Je voudrais simplement rappeler quel est l'objectif de cette opération. Et pour reprendre la question qui est posée au début de cette émission, s'il faut prendre plus de temps, nous prendrons plus de temps. Mais chacun doit bien comprendre ce que nous faisons avec Aéroports de Paris et ce qu'est Aéroports de Paris. Aéroports de Paris est une société dont l'activité est principalement commerciale, dont 75% du chiffre d'affaires, c'est des boutiques de luxe, c'est des hôtels, c'est des parkings. Le reste, la question du transport aérien, de la circulation dans les couloirs, de la tarification, restera dans les mains de l'État et de la puissance publique. Aéroport de Paris, il y a une frontière à Aéroport de Paris, ça ne m'a pas échappé. Mais cette frontière, elle restera évidemment contrôlée par la puissance publique, par les policiers, par les douaniers, par les gendarmes. Il n'a jamais été question, contrairement à ce que j'ai entendu, de privatiser la frontière. Donc prenons le temps de cette consultation pour mieux expliquer notre projet. Je pense que ça en vaut la peine.
Et pour laisser le temps au référendum d'échouer.
Et pour laisser le temps aux Français de comprendre quel est l'objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est de permettre à Aéroports de Paris de devenir l'un des premiers aéroports au monde, l'un des plus compétitifs, l'un des plus attractifs. Ça s'inscrit dans notre stratégie d'attractivité du territoire.
On va continuer à parler du secteur des transports, mais du transport terrestre. Il faut trouver près de 5 milliards d'euros pour compenser les mesures d'urgence annoncées par Emmanuel Macron en décembre dernier, en pleine crise des Gilets jaunes. Et pour ça, vous touchez à certaines niches fiscales, notamment celle du gazole non routier. Vous en avez parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Les entrepreneurs de ce secteur sont très inquiets, disent leur colère et appellent même peut-être à des mobilisations. On le saura cette semaine. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin pour les rassurer ?
D'abord, nous avons pris tout le temps de la concertation, de la consultation avec les transporteurs, avec les bâtiments, les travaux publics.
Malgré le temps, ils ne sont pas contents.
Ce n'est pas suffisant.
Je viens de leur écrire. Et qu'est-ce que je leur ai écrit dans la lettre que je leur ai adressée il y a quelques jours ? C'est que nous allions aligner le tarif du gazole non routier sur le diesel. plus d'avantages fiscaux. Pourquoi ? Parce que c'est cohérent avec notre politique environnementale. On ne peut pas dire d'un côté que nous voulons moins de carburants polluants, moins d'énergie fossile, et puis de l'autre, reculer lorsqu'il faut prendre les décisions courageuses.
Alors voilà, donc nous, ça veut dire que vous ne les écoutez pas. Parce qu'eux, ils considèrent que justement, ils sont les perdants de cette transition que vous voulez mettre en avant.
Écouter, ça n'est pas reculer, ça n'est pas renoncer à notre ambition. Écouter, c'est faire les choses en prenant davantage en compte les intérêts des uns et des autres et leurs préoccupations. Là, quelle est la préoccupation de ces acteurs du bâtiment, du terrassement, qui sont concernés par cette augmentation du gazole non routier ? C'est de rester compétitif, c'est de pouvoir répercuter cette augmentation sur les contrats qu'ils ont en cours, par exemple avec les collectivités locales ou avec l'État. Nous allons leur donner ces compensations. Ils pourront répercuter cette évolution sur les contrats en cours. Et nous prendrons une mesure d'ordre général sur la possibilité pour les entreprises de répercuter cette augmentation du GNR sur les contrats en cours avec l'État ou avec les collectivités locales. Nous allons rendre les travaux de maintenance sur les réseaux éligibles au fonds de compensation de la TVA. C'est une demande depuis plusieurs années de ces professions. Nous allons prévoir également un taux minimal d'avance pour les PME quand elles ont un contrat avec les collectivités locales. Nous l'avons déjà prévu pour l'État, c'est-à-dire vous signez un contrat avec l'État pour construire une école, un hôpital, une crèche. Vous êtes obligé aujourd'hui de verser 10% du montant du contrat. Eh bien, cette obligation-là que nous avons pour l'État, elle sera transférée aussi aux collectivités locales et aux établissements publics qui ont un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros. Pardon d'être très précis.
Non, mais justement, c'est juste pour vous montrer. On voit, vous êtes précis, vous lisez précisément d'ailleurs ces mesures.
Je suis précis parce que nous avons fait ce travail avec tous les professionnels. Parce que politiquement, c'est explosif.
Sur les ronds-points, il y avait beaucoup d'artisans du BTP. Il y avait beaucoup d'artisans. C'est explosif. Vous savez que ça peut peut-être allumer la mèche des gilets jaunes si vous n'êtes pas entendu, si vous n'êtes pas précis et si vous n'êtes pas rapide.
Raison de plus pour écouter et pour entendre. Vous savez, les gens ne vont pas se contenter de bonnes paroles. Quand vous êtes entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics en Savoie, dans l'Eure où il y en a beaucoup ou ailleurs, qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez votre marge, vous voyez que votre marge elle peut être rognée par l'augmentation du GNR aligné sur le diesel, et donc vous voulez des réponses. Dernière réponse sur laquelle je veux insister, parce que je pense qu'elle est très emblématique de ce que nous voulons faire. La première fois que nous avions fait l'alignement, nous avons dit c'est une seule fois. 1 milliard d'euros transférés d'un coup, d'un seul, sur ces entreprises. Nous allons le faire en 3 ans, et l'alignement ne commencera qu'au 1er juillet 2020. Nous faisons les choses progressivement, parce que je préfère qu'on atteigne notre objectif et qu'on le fasse progressivement, plutôt que de nous précipiter.
Juste avant la pause, Nicolas Barré, il reste quelques secondes.
Il y a une autre niche fiscale sur laquelle vous rognez, c'est le mécénat d'entreprise. Ça suscite beaucoup de réactions, notamment le président de la Fondation du patrimoine qui a beaucoup œuvré pour Notre-Dame de Paris, Guillaume Poitrinal, disait ce week-end dans le Figaro que les mesures que vous allez prendre vont pénaliser finalement tous ces grands donateurs, notamment entreprises.
Soyons sérieux. Quand on peut donner 2 millions d'euros au titre du mécénat, je pense que le fait de passer le taux de 60 à 40% reste parfaitement raisonnable. Nous aurions abaissé ça jusqu'à un don de 10 000, de 20 000 ou 30 000 euros, je comprends bien. Mais ça ne concerne que les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Donc quand on peut faire un don supérieur à 2 millions d'euros, je crois que passer le taux de 60 à 40% me paraît parfaitement raisonnable. Je rappelle aussi que nous avons exclu de cette mesure toutes les banques alimentaires, pour ne pas pénaliser les banques alimentaires.
Bruno Le Maire, on se retrouve quelques instants pour évoquer la menace d'une récession mondiale.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
On se retrouve pour continuer à explorer donc les grands enjeux nationaux et internationaux, justement. Bruno Le Maire, après le G7 et ses réussites diplomatiques, est-ce qu'au fond, ça ne masque quand même pas une réalité, c'est-à-dire la menace d'une récession mondiale ?
D'abord, oui, le G7 a été un grand succès.
Oui, bien sûr,
je le redis, parce que d'abord, ça me fait plaisir. Et ensuite, je pense que ça fait plaisir aux Français qui peuvent être fiers de ce G7 et de la place qui a occupé la France et le président de la République. Ensuite, oui, il y a des nuages à l'horizon. Il n'échappe à personne. Il y a d'abord le nuage de cette crise commerciale, de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui ne fera que des perdants, aux États-Unis, en Chine et en Europe. Il y a en deuxième lieu toutes les tensions qui existent en Europe. On parle beaucoup du Brexit et du risque de Brexit dur, c'est-à-dire sans accord. Je voudrais aussi signaler la préoccupation liée à la situation italienne, qui est un pays dont l'économie aujourd'hui ne se porte pas bien, qui a perdu en compétitivité, en productivité. avec des banques qui sont très importantes, donc il y a un poids aussi dans l'économie italienne et dans l'économie de la zone euro, c'est un sujet de préoccupation. Et puis vous avez un ralentissement très marqué en Allemagne, qui est notre premier partenaire commercial. Donc à partir de là, on peut se dire, bon, bah, on attend. Ou on agit. Je préfère que nous agissions. Et agir, c'est quoi? C'est permettre à l'Europe de bâtir les conditions de sa propre croissance. Être moins dépendant des marchés internationaux, moins dépendant d'un commerce international qui est aujourd'hui en crise, et nous donner les moyens d'avoir une croissance qui garantit la prospérité et les emplois pour tous les Européens. J'ai proposé depuis plusieurs mois un pacte de croissance, qui est simple. Il repose sur l'idée qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas, voire négatifs, et que la politique monétaire est accommodante. Je propose donc à tous les États qui ont la capacité budgétaire de le faire, d'investir davantage. Au premier rang de ces pays, l'Allemagne, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le ministre des Finances allemand à plusieurs reprises,
je l'ai redit au ministre de l'Économie, Peter Altmaier,
avec beaucoup de fermeté il y a quelques jours lorsque nous nous sommes vus à l'occasion des universités d'été du MEDEF. Je pense que tous les États qui ont la marge de manœuvre budgétaire nécessaire dans la zone euro doivent investir
plus. Ça, c'est l'intention.
L'Allemagne a commencé à le faire. Il faut qu'elle fasse beaucoup plus. Il faut qu'elle fasse beaucoup plus. Ce qui est nouveau dans la proposition que je fais, c'est que je ne dis pas simplement que l'Allemagne doit investir plus ou que les Pays-Bas doivent investir plus ou que tous ceux qui ont la marge de manœuvre budgétaire doivent investir plus. Je dis également que ceux qui n'ont pas des comptes publics en bon ordre doivent remettre ces comptes publics en bon ordre. Et je dis en troisième lieu, c'est le troisième point de ce contrat de croissance que j'ai proposé il y a plusieurs mois, que tous ceux qui ont pris des retards en termes de productivité ou de compétitivité doivent engager les réformes structurelles nécessaires. C'est exactement ce que nous faisons en France. Quel est le sens de ce pacte de croissance? C'est dire que l'Europe va bâtir sa propre croissance, et ça veut dire surtout qu'il faut qu'il y ait plus de solidarité dans la zone euro, plus de coordination de nos politiques économiques, qu'il faut qu'on arrête de regarder chacun de notre coin.
Ça fait 20 ans qu'on entend ça, à chaque fois.
Que nous arrêtions de regarder chacun de notre coin et que nous soyons capables de prendre des décisions collectives.
Vous allez même plus loin, au-delà du pacte que vous proposez. Vous avez même dit cet été dans le point, le capitalisme est entré dans une impasse entre le capitalisme d'État chinois, le capitalisme financier américain. Que peut faire effectivement l'Europe? Vous avez l'air de dire que ce système ne fonctionne plus. Vous êtes devenu anticapitaliste, Bruno Le Maire?
Je voudrais juste, je vous rassure, je ne suis pas devenu contre le capitalisme. Je suis contre le capitalisme tel qu'il va aujourd'hui et pour un capitaliste qui se renouvelle en profondeur. Je veux juste revenir une seconde, Michael Darmon, sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'on répète ça depuis des années, des années, des années. Peut-être. Mais il y a une chose nouvelle. C'est que la France a retrouvé sa crédibilité et qu'elle est davantage entendue. Quand la France était complètement à la traîne des autres pays européens, évidemment qu'on ne l'écoutait pas beaucoup.
À cause de la
Mais aujourd'hui, il se trouve
publiques.
Que nous avons une croissance qui est solide. Il se trouve que nous créons des emplois.
1,4%,
il se trouve
vous confirmez que nous cette prévision?
Je confirme la prévision à 1,4%. Nous verrons au moment du débat budgétaire quelle sera la dernière prévision que nous mettrons. Mais aujourd'hui, je confirme
vous
la croissance
optimiste.
À 1,4%. Et je constate que l'investissement est là, que la consommation a commencé à redémarrer plus 0,4% au dernier trimestre, que vous avez une profitabilité des entreprises qui leur permet d'innover et d'investir pour préparer l'avenir, que nous sommes enfin sortis de la procédure pour déficit public excessif. Donc la France a retrouvé sa crédibilité. Donc quand elle fait une proposition comme celle du pacte de croissance,
dans une Europe faible,
je pense qu'elle mérite considération et je porterai à nouveau cette proposition lors de la prochaine réunion des ministres des Finances.
Nicolas Barret. Bruno Le Maire, on a appris cette semaine que le géant chinois du ferroviaire allait racheter probablement un fabricant de locomotives allemandes. C'est un peu le loup dans la bergerie, en plus sachant que la commission sortante avait interdit le rapprochement Siemens-Alstom. Est-ce que vous demandez à la nouvelle commission de bloquer ce type de rachat? Est-ce qu'elle en a les moyens?
Alors, c'est pas gentil, Nicolas Barret, de vouloir me mettre de mauvaise humeur un dimanche matin pour ma première émission de rentrée.
Non mais c'est bien, vous êtes de bonne humeur depuis 20 minutes, donc on peut y aller maintenant.
En général, de bonne humeur assez constante.
Voilà.
Mais
là,
cette décision me met hors de moi. Parce que je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts et qui ne protège pas nos compatriotes. Il y a des mois que nous répétons avec Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand, avec le patron de Siemens, avec le patron des chemins de fer allemands, avec l'ensemble des acteurs concernés, qu'il faut nous armer face à la concurrence chinoise. Que le géant CRRC, qui est beaucoup plus puissant que Alstom et Siemens réunis, va venir en Europe, prendre des marchés en Europe, essayer de racheter des constructeurs de locomotives en Europe. Et la commission n'a cessé de nous dire, mais c'est faux, ça n'arrivera jamais, ne vous inquiétez pas. Dormez sur vos deux oreilles, bonnes gens.
Bon, mais là, il y a des nouveaux commissaires qui seront nommés le 1er novembre.
Qu'est-ce qui se passe ?
CRC
entre en Europe, veut acheter des entreprises et commence à construire des lignes ferroviaires. Donc oui, ça me met hors de moi, parce que je me bats pour une Europe qui protège, pas pour une Europe qui ouvre tout grand son marché à d'autres acteurs qui n'ouvrent pas leur propre marché.
Et ça contredit tout ce que vous nous expliquez, votre souhait d'avoir une Europe puissante.
J'écrirai donc à la nouvelle commissaire en charge de la concurrence pour rappeler d'une part que sur cette affaire,
la nouvelle,
il y a une erreur.
Déjà qui ce sera
la nouvelle.
La nouvelle ou le nouvel, on verra.
Ça pourrait être Sylvie Goulard.
Sylvie Goulard sera la concurrence. Sylvie Goulard sera la concurrence.
Sylvie Goulard sera en tout cas une excellente commissaire. Ça,
est-ce que, certes, mais est-ce qu'elle sera
à la concurrence
je dis simplement qu'on ne peut pas écarter d'emblée l'idée que la France pourrait s'intéresser à la concurrence. Nous avons des idées sur ce sujet.
Est-ce que vous allez le savoir en fait.
Je confirme que nous avons fait des propositions avec l'Allemagne et avec la Pologne sur la révision des règles de concurrence et que nous allons écrire à nouveau à cette commission, cette commissaire ou ce commissaire, pour leur demander de tenir compte de ces propositions françaises, allemandes, polonaises, qui n'ont qu'un seul objectif, mieux nous armer face à la concurrence internationale. Et l'exemple d'Alstom Siemens doit être un exemple emblématique de ce qu'il ne faut plus faire, c'est-à-dire nous empêcher de nous rassembler pour peser face aux géants chinois ou face aux géants américains.
Bruno Le Maire, vous avez parlé du G7 et de ses succès. Dites-vous, est-ce que la France est si bien placée que ça pour faire la leçon au Brésil en matière d'environnement ? Votre ministère a notamment signé encore cet été un décret d'exploration dans la forêt guyanaise. Il n'y a pas un double discours de la part de la France sur cette question. On s'offusque et on combat Jair Bolsonaro. Et puis finalement, au cœur de l'été, on permet à des entreprises d'aller explorer ce poumon vert.
Bon, nous ne faisons la leçon à personne. Nous battons avec le président de la République pour une croissance qui soit respectueuse de notre environnement. Parce que si le prix à payer pour le développement économique, la croissance et les emplois, c'est la destruction de la planète, on ne va pas aller très loin.
Oui, mais alors pourquoi ces permis d'exploration ?
Mais ce sont d'abord des permis d'exploration, comme vous l'avez très bien
dit.
Ce n'est pas des permis d'exploitation. Donc ça concerne quelques dizaines
peut-être
d'hectares.
D'exploiter un jour.
En vue peut-être d'exploiter un jour. Aujourd'hui, c'est que de l'exploration. Et je préfère un permis d'explorer légal à la multiplication des activités illégales. Je rappelle également qu'à la fin de ces permis d'exploitation, une fois que l'exploitation a eu lieu, la compagnie qui a eu ce permis doit s'engager à la reforestation complète de la parcelle qu'elle a utilisée. Donc je préfère qu'on soit dans un cadre légal, encadré, où on s'assure que l'impact sur la planète est le plus limité possible et qu'il y a une reforestation au bout du compte, que de faire croire qu'on exploitera nulle part et qu'on laissera l'activité illégale se développer.
C'était pas un peu une manière un peu d'instrumentaliser aussi ce qui s'est passé, ce qui se passe malheureusement en Amazonie, pour montrer que le gouvernement, malgré toutes les critiques, effectivement, se préoccupe de l'environnement, de la transition écologique, alors que au fond, on crédite pas une grande, je dirais, sincérité sur ce sujet depuis quelque temps.
Je pense qu'on a tort de pas créditer le gouvernement, le président de la République, d'une prise de conscience. Je ne parlerai même pas de sincérité, d'une prise de conscience. Prise de conscience, elle est collective, elle est individuelle.
Nouvelle.
Moi-même, vous m'auriez interrogé il y a 5, 10 ou 15 ans sur la question environnementale, je vous aurais dit, bon, c'est important, mais il faut concilier respect de l'environnement, puis d'autres contraintes à côté. Aujourd'hui, je vous dis, comme beaucoup d'autres, qu'il y a une urgence absolue à garantir le développement équilibré de notre économie et de notre planète. Et que toutes les décisions que nous prenons sur le pacte productif, dont le président de la République m'a confié la responsabilité, par exemple, doivent nous garantir que notre croissance se fait dans le respect de l'environnement, dans le respect des ressources naturelles, dans le respect de la biodiversité. C'est une urgence absolue. Et mieux vaut en prendre conscience un peu tard, c'est mon cas, que de ne pas en prendre conscience du tout.
Les Britanniques, Bruno Le Maire, se préparent activement à la perspective d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Ce serait le 31 octobre. Nous, concrètement, est-ce qu'on est prêt ? On a des secteurs qui sont massivement excédentaires avec le Royaume-Uni, par exemple l'agroalimentaire. Est-ce qu'on va mettre en place davantage de douaniers, par exemple ? Comment est-ce qu'on va gérer tout ce flux de camions qu'il va falloir contrôler tout d'un coup parce qu'il y a de nouveau une frontière ? Enfin, est-ce qu'on est prêt ?
Davantage de douaniers, c'est fait. C'est ce qu'a décidé Gérald Darmanin il y a plusieurs semaines. Prévenir les entreprises, c'est ce que nous faisons. Il y aura une nouvelle réunion autour d'Agnès Pannier et d'Amélie de Montchalin la semaine prochaine au ministère de l'Économie et des Finances. Le Premier ministre s'est totalement mobilisé pour alerter les entreprises. Il y aura effectivement quelques TPE, quelques petites entreprises qui prendront le choc frontalement. À nous de les accompagner. J'ai parfaitement conscience que beaucoup de très petites entreprises qui exportent ont comme seul marché d'exportation la Grande-Bretagne et que ce marché peut se fermer du jour au lendemain s'il y a un Brexit dur. Donc nous sommes là, à leur côté, pour les soutenir, les accompagner, les conseiller. Mais mesurons quand même une chose. Ceux pour qui ça va être particulièrement difficile, ce sont les Britanniques eux-mêmes. Et tous ceux qui leur ont expliqué que le coût de la participation à l'Union européenne était beaucoup trop élevé, que le chèque était trop important, on s'aperçoit d'une chose simple. C'est beaucoup moins cher de payer un chèque à l'Union européenne et d'avoir accès au marché unique européen et à ses 450 millions de consommateurs que de se retirer de ce marché et d'avoir une économie qui s'effondre.
Bruno Le Maire, tout ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, Brexit, les problèmes avec la concurrence, au fond, ça renvoie, d'ailleurs, ce que vous avez écrit récemment dans un livre, « La construction européenne est mortelle ». Au fond, il n'y a aucun signe de renforcement de l'Europe dans tous les processus mondiaux que vous nous décrivez depuis tout à l'heure. Comment l'Europe peut effectivement se sortir entre les routes de la soie, entre la nouvelle réorganisation au Proche-Orient, entre les enjeux que vous nous décrivez, même la technologie. Comment on fait ?
Il y a des signes qui vont dans la bonne direction, mais ils sont insuffisants et trop lents. Il y a des signes, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez apporter une aide d'État pour développer une technologie qui n'est pas mature, comme les batteries électriques. Nous avons lancé un grand chantier avec mon homologue allemand pour développer des batteries électriques en Europe, qui fait que demain, quand vous achèterez votre voiture électrique, au lieu d'avoir marqué « Made in China » sur la batterie, vous verrez marqué « Fabriqué en Europe ».
Peut-être.
Donc c'est la preuve, je pense que nous sommes dans la bonne direction et que nous avons fait un choix qui est le bon choix en matière d'indépendance et de souveraineté technologique. Mais ces signaux sont insuffisants. Il faut une nouvelle politique de la concurrence. Il faut une nouvelle politique industrielle comme nous l'avons proposée. Il faut affirmer le rôle international de l'euro qui doit être aussi puissant demain que l'est le dollar.
Je rebondis, vous avez dit souveraineté technologique.
Une zone euro beaucoup plus intégrée.
Vous avez dit souveraineté technologique, mais oui. Quand Facebook lance sa propre monnaie, où est la souveraineté technologique ? Peut-être que ça va perdre
la souveraineté
d'État.
Vous avez vu la réaction qui était celle des 7 ministres des Finances du G7 sur Libra, en disant très clairement que nous n'accepterons pas qu'une compagnie privée se dote du pouvoir de battre monnaie comme un État souverain. Vous avez vu le combat que nous avons mené depuis 2 ans avec le président de la République pour remettre de la justice fiscale et faire en sorte que les gens du numérique soient taxés. Enfin, ce n'est pas n'importe quel État qui a porté ce combat. Si la France n'avait pas porté ce combat au niveau européen, puis mis en place sa taxation nationale, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'avancée au niveau international. Si demain nous avons une taxation juste, équilibrée des géants du numérique à l'OCDE, ce sera d'abord parce que la France a porté ce combat depuis 2 ans.
Bruno Le Maire, vous êtes aussi un responsable politique, on va le vérifier dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et notre invité, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez évoqué tout à l'heure le ressentiment que vous décrivez, percevez à l'intérieur de la société. Est-ce qu'il n'est pas dû également au fait que sur les questions de laïcité, des valeurs, de l'islam, du vivre ensemble, il n'y a pas de discours, on ne sait pas vraiment où on va. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, sur ces sujets ?
Je pense qu'il y a un discours, il y a une fermeté qui est affichée par le président de la République, par l'ensemble du gouvernement. Mais je considère depuis de très nombreuses années que la question clé en France, c'est la question de la culture. C'est ce qui nous rassemble, qui fait que nous parlons la même langue, que nous avons les mêmes références, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, des questions religieuses et des questions civiles, l'attachement à notre histoire, à ce dont nous venons, qui doit nous permettre de nous projeter dans l'avenir. La culture, c'est le ciment de l'unité de la nation française. Et ça doit le rester.
Ça semble de moins en moins partagé quand même. Certains s'en inquiètent.
Certains s'en inquiètent à juste titre. Certains la menacent. J'ai dénoncé à de multiples reprises la montée d'un islam politique en France. Je confirme que c'est pour moi un des motifs d'inquiétude parce que cet islam politique porte un projet qui est incompatible avec notre société et incompatible avec ce qu'est notre nation.
C'est une crainte aux élections municipales, aux élections locales, qu'il y ait des listes comme ça, communautaires.
Bien sûr, ça peut devenir sous forme politique, se traduire sous forme de liste communautariste aux prochaines élections municipales. Je pense qu'il faut dire les choses avec fermeté et clarté. L'islam politique est incompatible avec notre nation. Notre nation est née des Lumières. C'est construite sur l'indépendance de l'individu, sur son autonomie, sur sa capacité à construire son propre destin. Elle s'est construite sur une séparation très claire entre la religion, et les affaires civiles, en laissant à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire et d'exercer sa croyance, mais dans le respect de l'ensemble de la société. Cette ligne rouge, elle ne peut jamais être franchie parce que c'est la nation, encore plus que la République, qui serait menacée.
Bruno Le Maire, vous nous expliquez tous ces enjeux, ils sont très importants. Est-ce que vous considérez que le président de la République a bien fait, finalement, de ne pas prononcer un discours sur la laïcité, comme il a annoncé, c'était une intention, et de ne pas réformer une partie de la loi de 1905, c'était l'intention, et il a annoncé qu'il ne le ferait plus. Est-ce que c'est une erreur ?
Moi, je ne vois pas de nécessité de réformer la loi de 1905. Je pense que les bonnes lois sont les lois qui durent, pas les lois qu'on change tous les quatre matins. Je pense que les bonnes lois sont des lois qui sont partagées par une large majorité de nos compatriotes. C'est le cas de la loi de 1905. Et une bonne loi, c'est celle que l'on fait respecter. Faire respecter de la loi de 1905, c'est rappeler à tous ceux qui veulent provoquer la société française, provoquer la République, que la religion n'a pas sa place dans la cité quand elle porte un projet politique de substitution aux valeurs de la République.
Il y avait une autre partie dans la question, la première. Pourquoi le président de la République a décidé de ne pas en parler ? Pourquoi tout simplement ne pas dire cela aux Français de là où il est ?
Ça, vous poserez la question au président de la République. Il s'exprime librement quand
bien
il
sûr,
le souhaite, quand il le juge utile.
Répondre,
Mais je pense qu'il a bien fait de rappeler que nous ne toucherions pas la loi de 1905. La question n'est pas de modifier la loi de 1905, c'est d'en rappeler le principe et de la faire respecter.
Nicolas Barré.
Vous évoquez les municipales, la bataille de Paris va démarrer et Cédric Villani a décidé de se lancer contre le candidat investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux. Cédric Villani d'ailleurs qui est soutenu par un certain nombre de personnalités ce dimanche dans Le Parisien. Vous regrettez cette guerre fratricide ? Comment est-ce qu'on n'a pas pu l'éviter ?
Toutes les guerres fratricides sont dommageables. Il y a un candidat qui a été investi par La République En Marche, Benjamin Griveaux, que je soutiens. Et qui a des soutiens importants et précieux. Il y en a deux qui sont dans cette salle, la maire du 9e, Delphine Burkly, la maire du 5e, Florence Berthoud, qui sont deux personnalités pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié. Ce que je souhaite, c'est que la campagne de Benjamin Griveaux prenne toute l'ampleur qu'elle doit prendre pour convaincre le maximum de Parisiens et qu'on laisse derrière nous les divisions qui conduisent toujours inéluctablement à la défaite.
On va traduire vos propos, ça veut dire que vous considérez qu'elle n'est pas encore assez déployée, qu'elle ne prend pas, qu'elle n'est pas assez lancée.
Je considère
ça que
c'est une campagne,
en fait,
elle doit prendre son ampleur. Voilà. La campagne de Benjamin Griveaux prendra de l'ampleur dans les semaines qui viennent, c'est nécessaire. Et il a tous les soutiens nécessaires pour le faire. Je cite à nouveau Delphine Burkly et Florence Berthoud, parce que je pense qu'elles incarnent parfaitement cette politique parisienne qui est attendue aujourd'hui par les Parisiens à l'écoute, proche, capable de donner aussi à Paris toute l'ampleur qu'elle doit prendre.
Quand même, pour un parti qui devait changer les usages, les modes de fonctionnement, ce que vous avez connu par ailleurs dans votre ancienne famille politique, bon, c'est très classique, guerre fratricide, dissidence contre candidat officiel. C'est difficile de changer la politique.
Mais essayons, oui, c'est très difficile de changer la politique, ça, je vous le confirme, mais essayons de garder notre ADN, notre singularité, notre originalité, qui est d'être au service des Français, en l'espèce au service des Parisiens, en évitant de tomber dans les querelles politiciennes qui, je pense profondément, insupportent nos compatriotes.
Sur un sujet, un dossier qui va occuper également la majorité en cette rentrée, le projet de loi sur la bioéthique, où en est votre réflexion sur la PMA ? Pour tout, avant l'été, vous faisiez part de vos interrogations, vous ne sembliez pas totalement convaincu. Est-ce que vous avez évolué à ce sujet ?
Je garde des interrogations, mais je vais profiter de débats parlementaires
qui
va démarrer. Je ne vous cache pas que j'ai eu un été assez occupé entre la préparation du G7, la nomination futur directeur général du FMI. Mais la rentrée commence, le projet de loi va être examiné à l'Assemblée nationale et je compte bien profiter des débats à l'Assemblée nationale pour trouver des réponses à mes interrogations. Je garde des interrogations.
Vous craignez une mobilisation des anti-mariages, ceux que l'on avait vus manifester dans la rue lors du quinquennat précédent, notamment ?
Je pense que le débat doit nous permettre justement d'éviter des mobilisations, des affrontements, pour que nous nous posions sereinement les questions qui se posent autour de la PMA, les questions qui sont liées à la filiation, les questions qui sont liées entre les possibilités techniques et les choix éthiques. C'est ces questions-là qui sont derrière. Et je pense qu'elles se traitent moins bien dans la rue qu'au Parlement ou dans le débat politique.
Alors c'est effectivement un sujet qui se traite dans tous les partis politiques. Ce week-end à la Beau, la droite a fait sa rentrée avec un slogan qui aurait pu être maintenant... chacun de son côté, tout sera possible. Hein. Quel regard vous portez sur votre ancienne famille politique ? Dans quel état elle est, selon vous ?
Je pense qu'elle a perdu sa pertinence politique. Et que quand on fait de la politique, il faut proposer quelque chose qui est de la pertinence. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage politique français, les affiliations des uns et des autres, vous avez d'abord une large partie de Français, ne l'oublions pas, qui ne s'intéressent plus du tout à la politique. Ils ne votent pas, l'abstention est importante, et il faut parler à tous ceux qui ne s'intéressent plus à la politique pour leur dire « c'est important, voilà ce que nous vous proposons, participez ». Vous avez toute une partie des Français qui refusent catégoriquement le capitalisme, l'économie de marché, qui estiment que la bonne solution serait toujours plus de contrôle de l'État, de dépenses publiques, de dettes. C'est une partie des Français, c'est tout à fait respectable, même si ça n'est pas mes convictions. Vous avez une partie qui vous dit « l'Europe, ça ne sert à rien, la mondialisation est une erreur, il faut se replier sur nous-mêmes ». Cette partie de la capitulation, c'est l'extrême droite. Et puis, vous avez une partie des Français, celle pour lesquelles nous avons construit une offre politique, qui disent « nous pouvons être leaders en Europe, nous pouvons être une grande puissance économique, nous avons des capacités technologiques qui sont exceptionnelles et nous pouvons réussir dans la mondialisation ». C'est la partie qu'incarne aujourd'hui le président de la République et
donc,
la majorité.
Vous n'êtes plus de droite, Bruno Le Maire.
Je n'oublie pas une dernière frange politique qui va grandissante et qui manifeste des préoccupations profondes, celle de tous ces Français qui disent « faites davantage attention à l'environnement. Proposez-nous des modèles économiques qui soient compatibles avec le respect de notre planète ». Voilà aujourd'hui les grands équilibres politiques. Et je ne vois pas aujourd'hui en quoi le rassemblement de la Baule apporte une seule réponse aux interrogations que je viens de poser sur le capitalisme, sur l'environnement, sur la place dans la mondialisation ou sur l'Europe. Aucune réponse. Donc très franchement, je vois un parti qui a perdu sa pertinence politique.
Vous, précisons, vous n'êtes plus de droite ?
Mais je pense que ces notions de droite ou de gauche, vous voyez bien que dans la présentation que je vous ai faite du panorama politique, à aucun moment, j'ai employé le terme droite-gauche. La question de savoir si on fait plus pour l'environnement et qu'on modifie notre modèle de croissance économique, voilà une vraie question. La question de savoir si on construit la souveraineté européenne ou pas, voilà une vraie question. La question de savoir s'il faut plus de redistribution, plus de dépenses publiques ou moins et réduire la dette, voilà des vraies questions. Mais ça ne rentre plus dans ce schéma obsolète de la droite et de la gauche. Et quand je vois tant de mes anciens collègues qui s'évertuent à nous dire « vive la droite moderne, la droite ancienne, la droite nouvelle, la droite nationale, la droite ceci, la droite cela », je dis « mais arrêtez de penser avec les concepts du XXe siècle, au XXIe, ils ne sont plus opérants ».
Il nous reste 2 minutes. Nicolas Barré.
Alors, c'est aussi l'actualité du week-end, loin de nous, mais c'est un sujet essentiel. On a eu des scènes de chaos absolu et de violence à Hong Kong ce week-end. Est-ce que vous craignez qu'on soit à la veille finalement d'un nouveau Tiananmen ?
D'abord, rien n'est loin de nous, Nicolas Barré. Rien. Tout ce qui se passe en Iran, à Hong Kong, en Chine, aux États-Unis, a désormais un impact, y compris sur notre vie quotidienne. S'il y a demain une crise dans le Golfe, eh bien, quand vous allez aller chercher de l'essence à la pompe, vous allez voir que cette crise a un impact direct sur votre vie quotidienne.
C'est bien pour
là,
ça
c'est un impact
question,
sur
ouais.
nos valeurs et ce que nous croyons la démocratie. Moi, je crois à la démocratie. Je suis impressionné par ces manifestants de Hong Kong. Je n'hésite pas à le dire. Impressionné par leur courage, par leur détermination, par les valeurs qu'ils portent.
Mais comment ça va se finir ?
Parce que ce sont nos valeurs. Les valeurs de la démocratie libérale qui doivent être défendues avec la même fermeté que les gouvernements autoritaires défendent leurs intérêts. Nous devons être des démocrates libéraux forts.
Face à Pékin, comment ça va se terminer ?
Face à tous les régimes qui ne respectent pas nécessairement la démocratie libérale. Donc je souhaite qu'on entende les revendications de ces manifestants et que nous soyons aux côtés de ceux qui, partout dans le monde, défendent la démocratie libérale.
Rien n'est loin de nous. C'était votre conclusion par rapport effectivement à cette émission qui a balayé tous les enjeux, l'agenda national et international qui sont liés. Merci beaucoup Bruno Le Maire.
Merci à vous.
D'être venu pour le premier grand rendez-vous de la saison. À dimanche.